Frédéric Monfrin, Laurent Vessière, on est dans la troisième partie, une troisième partie dans cette exposition L'été 14 avec vous. Une partie qui est peut-être plus difficile à exposer, c'est l'histoire des idées. Et vous avez intitulé cette partie pacifisme au pluriel et bellicisme au pluriel également. Frédéric Monfrin.
Alors, je pense que la première chose qu'il faut dire, c'est que pour la majorité des populations européennes, ce n'est pas une question qui se pose.
On a de la guerre ou du pacifisme ?
Les deux. C'est-à-dire qu'on est dans une position assez, j'allais dire, attentiste des populations. C'est-à-dire qu'on s'y guerre, il y a, on ira à la guerre, mais il n'y a pas de volonté ni spécialement pacifiste, ni spécialement belliciste. C'est vraiment dans certaines élites que les questions vont se poser.
Laurent Bessière, alors sur cette partie qui, je crois, n'est pas si simple que ça à concevoir, même pour vous, en l'occurrence.
Non, tout à fait. Je pense que probablement pour nous, pour tous les commissaires, ça a été la partie la plus difficile à illustrer parce que présenter matériellement des idées, c'est toujours compliqué, même quand ce sont des documents écrits. Mais nous voulions vraiment représenter ces deux grands courants de pensée, politiques parfois, qui vont sous-tendre essentiellement les élites, hein, puisque encore une fois, les populations ne sont pas dans ces débats d'idées qui parfois quand même sont assez complexes, même si on va retrouver du côté des pacifistes évidemment le plus de personnes attirées à cause du développement évidemment du socialisme ou des idées communistes.
Alors, deux murs qui se font face, c'est la façon la plus simple de présenter cette opposition. Sur un mur, on voit les plans d'envahissement supposés d'espionnage allemand, donc une cinquième colonne d'une certaine façon. Frédéric Monfrin, on y voit aussi une représentation de Charles Maurras ou encore un diplôme de la Ligue des Patriotes d'un côté. Et de l'autre côté, évidemment, on y trouve la guerre sociale, le journal de Gustave Hervé, par exemple, celui qui voulait planter le drapeau rouge dans le fumier des casernes un temps, mais également la voix du peuple ou encore une fameuse affiche, l'association de la paix par le droit, donc qui est sise à l'époque 24 rue Pierre Curie et qui titre « Guerre à la guerre ». Qu'est-ce qu'on peut entendre justement des deux côtés, en particulier en France, à ce moment-là, Frédéric Monfrin ?
Alors, vous parlez de cette affiche « Guerre à la guerre », c'est l'une des très belles pièces de l'exposition, même si elle n'est pas très spectaculaire. C'est l'affiche qu'il y a eu sur les murs de Paris le 28 juillet 1914 et qui appelle un grand rassemblement pacifiste dans les rues de Paris. C'est l'une des rares traces que l'on ait de ces manifestations pacifistes. Les manifestations n'ont pas été très très nombreuses, mais peu importe, elles ont eu lieu. Alors ces gens de la paix par le droit, j'allais dire, c'est un peu les ancêtres directs des promoteurs de la Société des Nations et ensuite de l'Organisation des Nations Unies. C'est ce qu'on appelle le pacifisme juridique. Donc c'est tous les gens qu'on aura vus avant la guerre, dans les fameuses conférences de La Haye, ces gens qui ont essayé de créer un droit de la guerre, d'interdire certains types d'armes. C'est vraiment ce noyau-là qui est à l'origine de ces manifestations de guerre à la guerre. Et opposé, alors ces hommes qui sont souvent des avocats, des juristes, quelques politiques, par exemple Joseph Caillaux est assez proche de ces associations, vous avez en face, je dirais, tendance inverse, les gens de l'Action française qui sont vraiment à l'opposé du spectre en termes de positionnement par rapport à la guerre. Alors cette carte de l'espionnage allemand, qui est totalement fantaisiste, essaie de montrer à quel point, là on est en 1913, les Allemands
ont
pénétré le territoire
profondément.
Et partout, à Monaco par exemple.
On en trouve en Bretagne, on en trouve un peu partout.
Plus surprenant, énormément.
Les gens de l'Action française.
Tout à fait, surtout beaucoup en Normandie, ce qui est assez curieux. On pourrait se demander pourquoi telle concentration d'espionnage allemand au fin fond du bocage. En fait, l'idée, c'est toujours cette rumeur des lettres magie, qui sont très très nombreuses à l'époque à Paris.
Et alors, il faut expliquer, magie, c'est donc cette fameuse marque de bouillon. Bouillon d'origine allemande, en l'occurrence.
Et non, suisse. Mais on fait croire aux Français que magie, c'est allemand. Et donc, il y a une menace.
Et les bouillons cubes aussi, qui sont aussi
bien sûr. Et surtout les laiteries, parce qu'à l'époque, l'une des grosses productions de magie, c'était du lait pour les nourrissons. Et donc, il y a toute cette idée qu'on instille dans la société qu'en cas de conflit avec l'Allemagne, magie, évidemment, industriel présumé allemand alors qu'il est suisse, pourrait empoisonner le lait. Et c'est ce qui va se passer en août 14 à Paris, c'est absolument frappant. La population va mettre à sac les laiteries magie. Et cette propagande de l'Action française instille vraiment dans l'esprit des gens cette haine de l'allemand. Et là, ça va même plus loin, puisque magie, en l'occurrence, est suisse.
Laurent Vessière, sur cette préparation, pourrait-on dire, intellectuelle à la guerre ou à l'opposition à la guerre ?
Je pense qu'il y a une figure à aborder obligatoirement ici, dans cette partie de l'exposition. Et aussi, on est face à un moment... un tournant de la chronologie, c'est évidemment la figure de Jaurès, c'est la grande figure du mouvement pacifiste. On n'a pas ça du côté des bellicistes, de ceux qui veulent la guerre. On a certes des figures, vous avez parlé de Maurras, il y a Barrès, il y a Desroulèdes, mais aucun n'a l'envergure évidemment de Jaurès. Et si on fait un peu d'histoire contrefactuelle, à ce moment de l'exposition, on peut se demander s'il n'avait pas été assassiné le 31 juin, et si, que se serait-il passé ? Mais en tout cas, c'est vraiment la grande figure, c'est le personnage hein, dont on reparle encore beaucoup aujourd'hui, pas uniquement à cause du centenaire de la guerre, parce que c'est aussi le centenaire de sa mort, mais avec d'ailleurs une très belle exposition aux Archives nationales.
Que nous avons déjà
un peu de publicité à nos collègues.
Voilà.
Mais c'est la grande figure, non pas là aussi qui va, je dirais, fédérer ces courants pacifiques, parce qu'encore une fois, on parlait des pacifistes juridiques, mais il y a des pacifistes chrestiens, il y a des humanistes, il y a des antimilitaristes qui s'opposent d'ailleurs, enfin, ou des anarchistes qui s'opposent à Jaurès régulièrement, mais c'est lui la grande figure. C'est lui la grande figure des mouvements ouvriers, c'est la grande figure qui a un discours structuré, qui touche au niveau national, mais aussi au niveau international, et en qui on aurait pu espérer peut-être pas une sortie de crise, mais en tout cas des solutions différentes de celles qui vont être apportées, au moins par le gouvernement français. Et puis, vous le savez, son assassinat le 31 au soir va provoquer deux choses. D'abord, la fin de ses espoirs, et puis surtout, avec, vous parliez tout à l'heure de la guerre sociale, le journal de Gustave Hervé, dont on expose la une le lendemain de l'assassinat de Jaurès, qui est, à mon avis, une pièce majeure de l'exposition, et qui dit... Défense nationale d'abord, c'est le ralliement, en fait, de tous ces mouvements, finalement, au gouvernement. C'est la première trace de l'Union sacrée, c'est ce qui va permettre l'Union sacrée, c'est ce qui va permettre aussi que le carnet B ne soit pas appliqué, ce fameux carnet où on inscrivait les anarchistes, les antimilitaristes qui allaient probablement contrecarrer les opérations de mobilisation. Ce ralliement massif au gouvernement fait que on n'arrêtera personne, on écartera juste des zones de conflit, les personnes dites indésirables, mais il n'y aura pas d'arrestation massive, il n'y aura pas de tout ça, et on se dirige en bloc vers la guerre.